23h55, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne, jusqu'à 1h du matin, comme tous les jours de la semaine. Vous pouvez nous appeler au 39-21, nos amis Julia, Florian et Laurent, notre réalisateur accompagné de Clément ce soir, vous attendent. On accueille Corinne et Jean-Daniel maintenant au 39-21, bonsoir.
Bonsoir
à tous les deux. Alors je parle d'abord à Jean-Daniel.
Oui, en fait, on s'est goupillé pour ne pas se couper, en fait.
D'accord.
Ça ne me dérange pas, j'aimerais commencer, que ma femme suive. Est-ce que je peux me permettre de vous tutoyer ou c'est interdit ?
Vous faites comme vous voulez, mon cher Jean-Daniel.
Alors, je voudrais qu'on se tutoie, ce sera plus simple.
Mais non, mais vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème. Ça viendra peut-être au cours de notre conversation que je vous tutoie, mais... Voilà, c'est à chaque fois vous faites comme vous voulez. Voilà.
Ça marche. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Daniel.
Oui.
J'ai 51 ans. J'habite dans la région de Lyon. Et ce soir, je voudrais vous parler de deux sujets qui me touchent particulièrement. Le viol des hommes, ainsi que la démarche judiciaire qu'on a dans notre pays et qui, pour moi, est problématique pour les victimes de viol, que je respecte infiniment, qu'il soit homme, femme ou enfant, bien entendu. Mon histoire, c'est assez simple. Mm-hmm. Allez-y.
Non, je suppose, j'allais vous dire que vous avez été touché de près, je suppose,
de
par tout
près,
ça.
De très près, oui. De très près. Je vais essayer d'être bref, je vais pas...
Non, mais prenez votre temps,
D'accord, ça marche. Donc j'ai deux enfants et j'aimerais vous parler de mon fils, Kai, qui était en école d'ingénieur, parce qu'il adorait les mathématiques. Et l'informatique. Et comme il y avait beaucoup de stress en maths sup, il y avait aussi beaucoup de la musculation. Donc tous les soirs, il faisait de la musculation. Il est tombé sur une âme charitable, un homme de 45 ans, qui lui a dit « Écoute, t'es étudiant, t'as pas d'argent, je vais te coacher. » Voilà, il a commencé son année comme ça. Et malheureusement, au mois d'avril 2018, il a été drogué au GHB, et violé par cet homme. Et il s'est suicidé en novembre 2018. Ça arrive. Et si j'en parle ce soir, en fait, c'est pas tellement pour vous raconter ma vie, qui est certes intéressante pour moi, mais pas pour les auditeurs, c'est que ce type de problème se répète. C'est vraiment, pour moi, insupportable. Je pense au père d'Océane, je pense à d'autres parents qui me racontent des histoires similaires. Donc, ce que j'ai fait ma propre enquête, j'ai donné toutes les informations à la police. Et quand c'est arrivé, j'étais un peu secoué, c'est vrai.
Il faut que vous me donniez certains détails, pardonnez-moi.
Oui, mais, allez-y, vous en prie.
À la suite de ce viol, Kyle vous met au courant ?
Non, c'est Kyle a disparu du jour A sur le jour B. Vous savez, vous avez une vie tranquille avec vos enfants. Tout va bien, et le soir de la fête des mères, en fait, il avait ramené sa vieille voiture. Il m'a mis un mot disant qu'il en avait marre de la vie et qu'il partait. Donc, c'était un peu compliqué. On a été au commissariat, ils m'ont dit à juste titre, mais il a 18 ans, monsieur, il fait ce qu'il veut.
Oui.
Donc, il passait trois jours assez compliqués, parce que j'avais pris engagement à ma femme de le retrouver.
Mm-hmm.
Je ne savais pas si elle retrouvait mort ou vif. Et finalement, je l'ai retrouvé en fait sur la grille de la Légion étrangère parce que le viol d'un homme en France, c'est un pays latin. Et même s'il y a de très bonnes associations, ça n'existe pas. Eh bien, si, ça existe, parce que mon fils était très grand, très musclé, et avec le GHB, n'importe qui peut se faire violer. Et de fil en aiguille, donc, il n'a pas été dans la Légion parce qu'il était parti sur un déni, si vous voulez. Il s'était dit, si je rentre à la Légion, je vais changer de nom, donc ça ne m'est jamais arrivé.
D'accord. Alors, je vais vous arrêter là, parce que il est presque minuit, et nous avons le journal de la rédaction qui arrive. Vous restez, bien évidemment, en ligne, et on va continuer à vous écouter juste après, d'accord ?
Ça marche.
À tout de suite, Corinne et Jean-Daniel. Il est minuit passé de 3 minutes, cela veut dire que nous sommes jeudi, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée, mais la plupart d'entre vous vont faire de beaux rêves d'ici une heure, voire une heure et demie, peut-être que certaines et certains d'entre vous sont en train de rejoindre les bras de Morphée, comme dirait Julia. Donc nous vous souhaitons une bonne nuit pour celles et ceux qui restent. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39-21. Bien évidemment, pour le moment, nous sommes avec Corinne et Jean-Daniel, son mari, leur fils Kyle. C'est, on n'en était pas encore là, vous nous l'avez dit, Jean-Daniel, votre fils Kyle, donc vous le retrouvez, vous retrouvez sa trace près de la Légion étrangère, ou que se passe-t-il exactement ?
Mais écoutez, comme j'ai été militaire, je connaissais, on appelait en service militaire, c'était assez facile pour moi de connaître un peu l'esprit militaire, donc j'avais donné une clé du whisky aux légionnaires, de façon à ce que je puisse parler à mon fils, et je retrouve devant la grille, c'était trop tard. Bref, ma femme apprend qu'il monte à Paris, un policier arrive sur la gare de Lyon, et c'est là où Kyle se confie sur son viol. Après, le recruteur de la Légion étrangère avait lui-même eu une femme violée, donc il a laissé repartir mon fils. Et après, c'était extrêmement compliqué. Mais je crois que ma femme veut vous parler, donc je vais laisser ma femme reprendre.
Corinne, je vous écoute. Corinne ? Êtes-vous là, Corinne ?
Oui, vous m'entendez ?
Je vous entends, oui. Voilà. Ce que je voulais, avant que vous interveniez, en fait, il vous fait part de ce viol et du malaise qui est le sien, en fait, qu'il n'arrive pas à surmonter les choses tout de suite.
Alors, en fait, il s'est confié, parce que ma belle-sœur qui habite sur Paris, qui nous a beaucoup aidés, en fait, à qui j'ai expliqué que mon fils était dans le train pour la Légion étrangère, et à qui a une grande force de conviction, a persuadé, en fait, la police Paris-Gare de Lyon d'intervenir pour l'interpeller, puisqu'il y avait une main courante pour disparition inquiétante, pour l'interpeller et puis essayer de voir ce qui se passait. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon fils s'est confié à une personne de la police, au capitaine de police, en lui disant qu'il avait été violé. Donc j'ai appris ça, moi, j'étais dans le train qui suivait le train de juste derrière, je montais le retrouver. Et vu que mon fils ne voulait pas porter plainte puisqu'il avait honte, il avait peur.
Il avait peur de
donc,
quoi
Il avait peur de cette personne. Il avait peur de ce que cette personne pourrait faire à son entourage.
Pourquoi ? Parce que votre fils vous parle du profil de cet homme ?
Ben, en fait, on a très vite compris parce qu'on a eu beaucoup d'informations par la suite. En fait, parce que moi, je suis partie à la Légion étrangère. Du coup, j'ai fait le pied de grue pendant une demi-heure pour parler au major. Qui au début ne voulait pas me recevoir. J'avais pris le numéro de téléphone de ce capitaine de police en lui disant « Écoutez, appelez et vous verrez bien que la place de mon fils n'est pas ici. » Donc il l'a appelé, effectivement, le capitaine de police a confirmé ce que Kyle lui avait confié. Et donc j'ai réussi à faire sortir Kyle de la Légion étrangère. Il a été hospitalisé à ce moment-là en unité de prévention pour le suicide, puisqu'il a clairement émis l'intention de se suicider. Donc là, s'en sont suivis des hospitalisations sous contrainte, ce qui est très difficile à vivre pour des parents, parce qu'en fait, votre enfant se retourne complètement contre vous, il ne comprend pas ce que vous faites. Donc ça a duré, un petit moment. Il nous a expliqué effectivement qu'il avait coupé tout contact avec cette personne, puisqu'on a bien fini par savoir qui c'était. C'est d'ailleurs dramatique dans les salles de sport qu'il y ait des prédateurs comme ça qui tournent autour des
hommes. Qui était cet homme, sans donner son nom ?
Alors, sans le nommer, en fait, c'était un abonné de la salle de sport, d'une salle de sport L'Appart à Lyon. Et qui, en fait, tournait un petit peu autour de tous les gamins. Donc, quand Kyle racontait à ses copains de promo qu'il avait un pote, qu'il le coachait, etc., tous ses copains se moquaient de lui en disant « Méfie-toi, parce que c'est quand même pas normal qu'un type de 40 ans tourne autour de toi. » Et mon fils était très naïf. Et voilà, donc il n'a rien vu venir. Et petit à petit, il a fait en sorte de devenir, pas un ami, mais de sympathiser avec lui, d'aller boire une bière une fois de temps en temps, d'aller manger une pizza jusqu'au jour où il l'a tiré chez lui. Il l'a drogué et puis il l'a violé. Donc de là, on a su par la suite avec l'hôpital psychiatrique, il a développé un état de stress post-traumatique, qui est toutes les victimes de viol développent un état de stress post-traumatique. Et il a essayé à deux reprises de mettre fin à ses jours, et la troisième fois, il a réussi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bat pour libérer la parole, parce que c'est un peu le triple tabou. Le viol d'un homme, c'est quand vous en parlez autour de vous, c'est quelque chose, ça n'existe pas, un homme ne peut pas.
On en parle sur cette antenne, Corinne, on l'a évoqué souvent.
Voilà, donc, mais voilà, c'est quelque chose qui est.
Mais
voilà,
c'est vrai que vous avez raison de dire.
Autour de moi, en tout cas, oui. Quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu des réactions assez inattendues.
Oui, et vous avez raison de le dire, parce qu'on parle généralement du viol, et on en parle beaucoup ici, mais on sait que ça représente 15% des agressions. Donc, avec l'image qui accompagne le viol, qu'un homme, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible.
C'est ça. Après, c'est tout aussi dramatique pour une femme que pour un homme. Hein.
Complètement.
On est bien d'accord. Hein. Mais effectivement, on a cette image de se dire que ça n'arrive pas aux hommes, ou qu'il était consentant, ou que, enfin, je ne sais quoi. Donc y a, voilà, le viol d'un homme, j'ai envie de dire. Le suicide est un sujet très tabou aussi. Et puis, la perte d'un enfant, qui n'est pas un sujet dont on discute aisément non plus. Donc, c'est vrai que avec ces trois sujets-là, on a pris le parti avec mon mari d'en parler, de libérer la parole là-dessus, parce que je pense qu'il faut en parler.
Et vous avez bien raison d'en parler, Corinne, car je crois savoir qu'aujourd'hui, l'agresseur de votre fils n'a pas été inquiété, et vous allez nous le raconter, que le juge vous a convoqué pour, après que vous ayez porté plainte, vous avez porté plainte au nom
alors
de Kyle.
Alors, on a porté plainte, voilà, on apporte, alors un autre nom à nous, mais pour le viol de notre fils,
oui.
Qui ayant entraîné la mort.
Mais est-ce que ça n'était pas que compliqué, ça, juridiquement ?
Alors non, parce qu'en fait, on était très très bien entourés, hein. On avait un très très bon avocat, là-dessus, qui nous a suivis, qui a défendu les victimes de viol dans l'affaire du père Pregna. Donc c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Donc on a déposé, nous, une plainte 15 jours après le décès de Kyle, pas contre X, hein, bien contre la personne en question. Il a été en garde à vue pendant 4 heures. Au terme des 4 heures, on nous a dit « Oui, mais votre fils a bien été évolué, mais on ne peut pas prouver que c'est lui ». Voilà ce qu'on nous a répondu.
Oui.
On a pris le téléphone de Kyle pour essayer de récupérer des données.
Oui,
le téléphone,
des SMS.
Il a été rendu cassé, voilà, inexploitable.
Qui l'a cassé ?
La police scientifique.
Ben, sympa,
voilà.
Super.
Voilà, sympa. Ouais. Donc on n'a rien pu en faire après, puisque le téléphone, en fait, hein, il était totalement inexploitable. Donc c'est pas les experts, hein, loin de là. Donc voilà, et puis, voyant que ça ne bougeait pas, en janvier, on s'est constitué partie civile pour pouvoir avoir accès au dossier, janvier 2019. En janvier 2020, un an après, avec de multiples relances, on a reçu un courrier du juge qui nous convoquait pour une première audition des parties civiles. Et il se trouve qu'en fait, quand on s'est présenté, le juge nous a dit, la première chose qu'il nous a dit, c'est voilà, je vous ai convoqué parce que j'ai décidé de prononcer un non-lieu. Donc l'audition, en fait, il n'y avait aucune audition.
Mm-hmm.
Donc ça a été, donc il n'y a pas eu d'ouverture de SMS, il n'y a pas eu de géolocalisation. Rien n'a été. On a demandé une expertise contradictoire de psychiatre pour cette personne, ça a été refusé. Donc,
On parle là, vous qui nous écoutez, aux quatre coins de la France, on évoque souvent sur cette antenne des disparitions inquiétantes. On évoque souvent des meurtres non élucidés. On a là, à travers l'histoire que Jean-Daniel et Corinne nous racontent ce soir, bien évidemment, un drame qui est la mort de cet enfant de 19 ans qui avait la vie devant lui. Mais au-delà de ça, chers amis, on a une justice qui a prononcé un non-lieu face à un prédateur. Un prédateur qui, si il ose mettre du GHB dans un verre et droguer un jeune homme et le violer, peut-être a déjà tué, peut-être tuera. Et ça veut dire que là, en fait, il est libre, qu'il n'a pas été inquiété et que c'est mais totalement, on marche sur la tête encore une fois.
Tout à fait.
Cet homme, vous avez son identité.
Oui. Il y a une plateforme qui existe, je tiens à le préciser pour les auditeurs. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle coabuse.fr.
D'accord. Où on peut trouver l'identité de cet homme ?
Alors, il suffit, en fait, si vous avez fait l'objet d'une agression sexuelle ou d'un viol, vous pouvez ouvrir un formulaire sur cette plateforme en déposant le nom vraiment de la personne, puisque 90% des viols et des agressions sont commises par des récidivistes, il faut le savoir.
D'accord.
Donc, voilà, on peut déposer. Et en fait, aujourd'hui, il y a 5000 formulaires qui ont été déposés sur cette plateforme. Et ça permet de matcher, en fait, des victimes qui ont un agresseur commun.
D'accord.
Et ce qui leur permet ensuite de se réunir s'il y a besoin de... Voilà, si elles veulent porter plainte ensemble, puisque c'est quand même plus facile de le faire ensemble.
Est-ce que le nom de cet homme a matché avec d'autres formulaires sur cette plateforme ?
Bah pour le moment, je l'ai fait que récemment, puisque j'ai découvert en fait cette plateforme moi très récemment.
Oui.
Voilà, je pense que Kyle n'était pas son premier, Kyle ne sera pas son dernier.
Mais bien évidemment.
Malheureusement.
Bien évidemment.
Voilà. Et c'est surtout pour ça qu'on veut parler, quoi.
Pour faire une chose pareille, il faut être, vous savez, pour trouver du GHB déjà. Moi, je ne sais pas où on trouve du GHB.
Moi non plus.
Pour trouver du GHB, il faut chercher, il faut donc c'est de la préméditation, c'est vraiment faire ça. Il faut être un tordu dans l'âme pour faire ça. Donc bien évidemment que Kyle ne devait pas être sa première victime et que si il était sa première victime, il y en a peut-être eu d'autres ou il y en aura d'autres. Parce que si ce monsieur a été inquiété 4 heures en garde à vue, ça lui a peut-être un peu chauffé aux fesses et il s'est peut-être calmé. En ce moment,
c'est ce qu'on espère, on se dit.
J'aimerais, Corinne, parler pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir d'une série qu'il y a en ce moment sur Netflix qui est consacrée à Jeff Dahmer, qui est un tueur en série qui a pris la vie de 16 ou 17 jeunes Américains. Et on voit dans cette série combien cet homme a pu tuer en toute impunité avec une police qui, comme pour votre affaire, hein, et une justice, a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'il n'y avait pas... Il y a quand même un jeune homme qui s'est suicidé là, qui a dit qu'il avait été violé. Qui a échangé avec ses copains sur un copain qui l'aidait soi-disant, qu'il coachait dans une salle de sport. Il n'y a pas assez de faits, comme on dit, de faits, je ne sais plus, de faisceaux.
Non, mais ils veulent de preuves, parce que les faisceaux de preuves ne sont pas suffisants.
Donc, c'est notre problème en France.
La présomption d'innocence en France, elle va très très loin. Et les criminels agissent en toute impunité et ils savent qu'ils ne vont pas être inquiétés. Et c'est ça qui est dramatique.
C'est dingue.
Et alors le comble, j'ai presque envie de dire, parce qu'alors Kyle avait horreur de l'injustice, c'était ce qui le caractérisait le plus. Donc je me dis, c'est...
Mais Kyle, c'est fou. Kyle avait horreur de l'injustice, mais est-ce qu'il n'a pas été témoin de tout ça en fait La seule injustice qu'il ait sans doute vécue, C'est cet internement qu'il a sans doute pris pour de l'injustice alors que vous le faisiez pour le protéger. Mais vous vous êtes renseigné sur cet homme ? Quel profil a-t-il, cet homme ?
Oui.
Parce que j'étais en train de penser, moi, Jean-Daniel, il me serait arrivé un truc pareil. Mais je ne vous dis même pas ce que j'aurais fait.
Olivier, je vais te dire, quand je l'ai appris, j'ai sauté dans ma voiture, je voulais régler ça par moi-même, et j'ai foncé vers la salle de sport. Donc mon idée, j'avais une arme très puissante avec moi, c'était une haine absolue. Et ma sœur et ma femme m'ont appelé pour me faire retomber en fait. Parce que de la barbarie, super, je l'aurais tué, mais je pense que dans notre pays, on a un problème plus profond et mon fils est déjà mort. J'avais déjà été au commissariat, en voulant porter plainte. Et à juste titre, et le prédateur était assez malin, ils m'ont dit « Non, il est majeur, il avait 18 ans et demi. » Donc je me suis bien renseigné là-dessus, c'est comme ça que j'ai retrouvé son nom, parce que Kyle m'avait raconté, une fois en pleurant, dans sa chambre par deux fois, il m'a raconté la scène, assez horrible, allongé, sans pouvoir bouger.
Mais oui, oui.
Je vais vous passer des détails. La deuxième fois, j'allais le voir tous les jours, quand il était dans cette unité anti-suicide, où j'ai appris beaucoup de choses, vraiment une très belle unité anti-suicide. Et il m'a dit, mais papa, tu ne comprends pas. Pour moi, la vie d'adulte, c'est se faire violer par un homme que je pensais être un ami. Et s'il s'était raccroché, parce qu'après, il avait repris ses études, l'école avait été très gentille avec nous, donc il était passé en spé, c'est parce qu'il a rencontré la femme de sa vie, oui, on peut dire la femme de sa vie, dans cet hôpital. Et il avait décidé de se battre pour pouvoir vivre avec Apple.
Oui.
Et il a fait 2 mois et demi. Et après, ils ont décidé autrement. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cette histoire, pour discuter avec des parents endeuillés, et je te remercie de ton aparté de tout à l'heure, parce que c'est exactement ça le problème, c'est que cette histoire, elle se répète. C'est ça qui est insupportable.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Et moi, ce que je voudrais, c'est pas tellement qu'on fasse une énième commission Théodule ou qu'on fasse un brainstorming creux, mais simplement regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Regardons ce qui se passe en Espagne. Regardons ce qui se passe en Angleterre. Regardons ce qui se passe aux US. Il y a des choses à apprendre. C'est pas parce que c'est notre justice que c'est la meilleure justice du monde. On est beaucoup trop nombristes et ça détruit énormément, notamment des jeunes, ce qui fait le plus mal.
Bien sûr. Force.
Voilà. Alors, son profil, oui, c'est un. Je connais bien. En plus, avec. J'ai eu accès par l'avocat à tout le dossier. Donc, j'ai tous les éléments, mais. Pour moi, ce qui est important, c'est je ne veux pas faire justice moi-même parce que sinon, je deviens le même barbare que lui.
Oui.
Et ce n'est qu'un prédateur parmi les autres. Ce qui est important, c'est de tenter de faire avancer cette justice. Vraiment, il y a des exemples à prendre pour essayer de réduire leur impact. Il y en aura toujours, mais là, ils font ça quasiment en plein jour. Et ils sont quasiment jamais emmerdés.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, en fait. Est-ce que vous qui connaissez, vous qui savez qui il est, son profil, Il peut recommencer quand il veut, ce mec-là.
Ah oui, oui, oui.
Il n'est pas inquiété par la justice.
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
À part le non-lieu. Et encore, j'ai été plus loin, parce que l'immense majorité, c'est des sans-suites. J'ai appris que le non-lieu, c'était moins pourri que le sans-suite. Enfin, je ne connais pas le droit, mais c'est ce qu'on m'a expliqué par A plus B.
Ah bon ?
Mais il est libre comme l'air. Oui, parce que sans-suite, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que vous êtes tout le total mythomane.
Oui, là, il y a une
et
trace.
Et non-lieu, vous n'êtes que semi-mythomane. Il y a quand même une trace. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est inquiétant, si tu veux, c'est si tu es prédateur, tu vas faire tes courses dans une salle de sport ou dans des activités sportives. Ce que me disait le juge, c'est on ne peut pas prouver avec certitude que c'est lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas de témoin, si tu n'as pas d'ADN, il est fort probable que je ne sois jamais emmerdé. Ça, c'est particulièrement insupportable. Pardon, excuse-moi pour la vulgarité.
Non, non, je vous en prie. C'est, j'imagine. Je ne peux pas m'empêcher de penser à votre fils. Cette scène
ouais,
de ne pas pouvoir
vraiment
bouger et d'être c'est là à la merci de ce porc, là.
C'est ce que m'expliquait un médecin. Il me disait, en fait, généralement, parfois, quand on est violé, le cerveau se met en sécurité, comme pour se dissocier du corps.
Bien sûr.
Et avec cette drogue, malheureusement, le cerveau, on ne peut pas bouger. Et le cerveau vit toute la scène. Voilà. C'est ce qui a détruit mon fils.
Vous m'avez dit vous battre aujourd'hui donc pour faire entendre votre voix. À travers quelles actions, au-delà d'essayer d'appeler les médias, comme vous faites ce soir, quels sont vos recours aujourd'hui, en tout cas pour faire entendre votre voix? Parce que vous avez cité Océane et ses parents. Qu'on a eu il y a un mois et demi maintenant.
Exactement.
Cette jeune femme qui a été abusée, violée à 3 reprises et qui s'est elle aussi suicidée, avec, je le répète encore, des prédateurs qui sont, comme l'homme qui a violé votre fils, aujourd'hui dehors, tranquilles, et qui peuvent recommencer demain avec vos fils, vos filles, vous qui nous écoutez, vos petits-fils, vos petites-filles.
On est bien d'accord, on est bien d'accord.
Ben oui, parce que c'est la réalité, ça. Ce soir, vous nous parlez de la réalité, qui est notre réalité à tous. Moi, j'ai une fille de 18 ans. J'ai une fille de 18 ans. Quand j'entends ça, je me dis, mais c'est quoi le recours, en fait, si personne ne fait rien pour nous?
Alors, moi, je suis peut-être un grand idéaliste, Olivier, mais je pense qu'il faut en parler. Et je pense que ça peut venir de la base. Parce que j'ai écrit à tous les ministères et compagnie, et j'ai eu de très très belles lettres expliquant qu'ils compatissaient avec moi. Mais à chaque fois, c'était nous, les hommes politiques, à part un homme politique dont vous parlez, ma femme,
député d'Ardèche.
On ne peut rien faire parce qu'il y a séparation de la justice et de la politique.
Oui, et heureusement, normal, mais, heureusement, j'allais vous dire.
Et heureusement, oui. Mais qui contrôle le contrôleur? Parce que là, il y avait des choses énormes. On fait appel et l'autre juge valide le refus. Quoi.
Alors, au nom de quoi ? Expliquez-nous pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien le côté complètement hirsute de cette justice par moment. Qu'est-ce qu'on vous a dit alors que il y avait des faisceaux concordants ? Votre fils n'a pas raconté un truc comme ça qu'il a inventé. Il n'a pas raconté ça à ses parents. À la police, visiblement, puisqu'il en a même parlé à la police. Et ils doivent se baser aussi, sur quoi ? Il doit y avoir la trace de l'ADN du mec, du violeur, pour qu'on puisse prouver quoi que ce soit ? C'est ça, en fait ?
Oui, c'est exactement ça, parce que la présomption d'innocence en France fait que, de toute façon, s'il n'y a pas d'ADN et qu'il n'y a pas de suite un constat par un médecin qui prouve qu'il y a vraiment eu un viol, hein, avec ce que ça implique au niveau des séquelles physiques, il est impossible aujourd'hui de prouver, et alors encore plus quand la victime est décédée, il y a une méconnaissance totale de l'état de stress post-traumatique. Moi, j'ai suivi une formation pendant 48 heures, justement à Valence, SVS, Stop aux violences sexuelles. Cette formation s'appelle Les Bases, et ça permet c'est dispensé pour des professionnels, et ça permet en fait de comprendre le côté juridique, le côté neurologique, il y a tout un panel pendant 48 heures, c'est très intéressant, très dur mais très intéressant. Et en fait, on se rend compte que un état de stress post-traumatique, il y a parfois des contradictions parce que la victime est complètement perdue. Il y a de l'hypervigilance, il y a de l'intrusion avec des flashbacks en permanence. Kyle nous disait avoir des flashbacks jour et nuit en permanence. Hein. Parfois, il sortait la nuit pour aller courir pour faire partir ses flashbacks. Et en fait, ça aujourd'hui, ce n'est pas compris. La justice en particulier ne sait pas comment réagit une victime de viol et ne sait pas l'écouter, ne sait pas l'entendre. Alors, il y a bien une procédure qui existe dans les commissariats qui s'appelle la procédure Mélanie et qui est censée en fait faire en sorte qu'il y ait des personnes formées pour accueillir les victimes de viol. Mais aujourd'hui, il y a la théorie et la pratique et il se trouve qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Quand on s'est rapproché de l'association de victimes de viol à Saint-Fond qui s'appelle le MA, la personne nous a dit si vous vous engagez sur un parcours judiciaire, va falloir vous armer parce que c'est très compliqué. Il y a une victime sur 10 qui a un procès aujourd'hui pour lequel l'auteur est condamné. Une sur 10. Il y a 93 000 viols en France chaque année et il y a 1000 condamnations. Voilà.
Nous citons régulièrement ce que vous venez de dire, Corinne, et nous nous en étonnons régulièrement sur cette libre antenne. De ce chiffre incroyable qui traduit quand même, on comprend, et ce soir, on va ressouligner l'importance de la présomption d'innocence, parce que dans d'autres cas, elle a fait son œuvre, cette présomption d'innocence, et elle le fera encore. Mais là, dans une histoire comme celle-là, on ne doit plus s'appuyer en sachant, si vous voulez, on parle souvent de jurisprudence en justice.
Oui.
Moi, je vais vous parler de jurisprudence humaine. Aujourd'hui, on est capable de tirer une analyse et donc de tirer un enseignement du traumatisme vécu par les personnes violées, hommes ou femmes, qui tentent à nous montrer, mais en pleine lumière, que plus de la moitié des personnes violées ne peuvent pas porter plainte tout de suite tellement elles sont traumatisées et qu'elles vont laisser passer des semaines, voire des mois, voire parfois des années avant de révéler le viol. Et ça, c'est intolérable.
Pour les enfants, c'est encore pire avec le déni traumatique. Voilà, on peut ne oublier quand on a été enfant qu'on a subi ça et avoir un réveil traumatique des années plus tard.
Oui.
Donc là aussi, il y a aussi la prescription qui vient jouer. Bon, il a été légèrement modifié pour les personnes mineures, mais pour les personnes majeures, c'est 10 ans la prescription. Bon, 10 ans, il y a des victimes qui ont besoin de plus de 10 ans pour pouvoir parler.
Non mais alors, je vais vous comparer vous allez comprendre pourquoi ça me fout en colère. Aujourd'hui, on a plusieurs personnalités médiatiques
tout à fait.
Hein, qui voilà. sont portés au bûcher et qui sont mais, comme lapidés hein, sur les réseaux sociaux, jugés avant d'être jugés par la justice. Je ne sais pas ce qu'ont fait ces personnes, je ne sais pas si elles l'ont fait ou pas. Par contre, ce que je constate, c'est toute la crédibilité qu'on accorde à ces victimes qui parlent après des années.
Ouais.
Et j'aurais tendance à croire ces victimes.
Bien sûr.
Donc, comment, dans une histoire qui concerne des gens importants et des gens qui ont eu pignon sur rue, qui ont été à la télévision, qui ont même parfois été ministres, comment, d'un seul coup, on accrédite et on ouvre une information et on ouvre une enquête judiciaire, même quand il y a prescription, s'il vous plaît. Mais par contre, quand c'est Kyle, 19 ans, inconnu au bataillon, quand c'est ses parents, Jean-Pierre et Corinne, inconnus au bataillon des citoyens normaux, on s'en fout, en fait.
Ben oui, parce qu'on n'a pas assez de poids, parce que on n'est pas assez connu, parce que... voilà,
parce que vous n'êtes personne,
c'est
finalement,
ça.
Aux yeux.
C'est ça.
Parce que quand vous comparez, regardez, on va prendre l'exemple de Nicolas Hulot, par exemple.
Mmh. Oh là là.
Oui, oh là là. Mais on peut comparer les deux affaires, là, ce soir. Il y a... un tas de faisceaux concordants pour cet homme-là.
Oui.
Et une crédibilité.
C'est pas une preuve en justice. Voilà.
Oui, mais
les faisceaux concordants,
oui,
c'est pas suffisant.
Alors, mais une crédibilité quand même du témoignage des victimes qui a porté la justice française à ouvrir une information judiciaire et une enquête. On l'a entendu, hein, tous. Le procureur a décidé d'ouvrir une enquête. Comment se fait-il que pour Kyle, allez, on fait un non-lieu et vas-y, on te cale ça tranquille. Et Kyle...
Alors je pense que ces victimes, elles sont plusieurs. C'est pour ça que moi je parlais du collectif, de la force du collectif.
Mais bien évidemment.
De ces plateformes, parce que quand vous êtes tout seul et en plus que la personne est décédée, de toute façon, on sait que voilà, ça n'ira pas très loin. Ses pauvres parents, il faut bien qu'ils trouvent un coupable. Enfin voilà,
Le petit, il a rien inventé, le petit. Il a bien nommé son agresseur. C'était un mec chez qui il était allé.
Il faut avoir l'esprit sacrément tordu pour aller inventer un truc pareil quand même. Hein,
mais bien évidemment.
Et puis donner la mort derrière. Hein. Donc, non, c'est sûr que... Mais bon, après, voilà, je sais qu'il y a des tas d'associations, il y a des tas de belles personnes qui se battent pour ça. Quand vous nous demandiez tout à l'heure ce que nous on faisait, hein, on s'est battu pendant 3 ans. On a un deuxième fils, hein. On s'est battu pendant 3 ans et aujourd'hui, ben, on essaye d'être dans la vie plus que dans le passé, parce que le passé on ne changera pas. Par contre, voilà, on a notre deuxième fils qui a un avenir, on a envie d'être
non,
dans
puis,
la vie.
Non, puis alors je vais vous dire, Corinne, Kyle. Il ne faut pas qu'il soit passé pour rien. Il ne faut pas qu'il ait eu toutes ses souffrances pour rien. Il faut que le passage de Kyle dans cette vie, aussi bref qu'il ait été, serve, pèse son poids. Et pour ça, ce soir, vous avez raison, et on relaye votre parole, mais on gueule ce soir, on hurle après l'injustice. Il y a un mec à Bordeaux de 40 ans qui a violé un jeune ingénieur, en tout cas un jeune étudiant, et qui continue à faire ses petites pompes et son sport tous les jours.
À Lyon.
Ouais. Est-ce que la salle de sport où il était, ce mec, vous l'avez mis au courant ?
Alors, on a essayé de s'en rapprocher, et puis bon, bah, ils ont même été auditionnés, hein, ils ont été auditionnés, et bon, bah non, pour eux, tout va bien. Donc voilà. Je pense qu'en fait, les gens se protègent. Les gens se protègent beaucoup. Ce qu'on a appris aussi par la suite, quand le non-lieu a été prononcé, c'est que le capitaine à qui Kyle s'est confié aurait dû, puisque la loi l'impose, normalement, dès lors qu'on se confie à une personne de justice, la personne de loi est censée faire suivre le dossier et ouvrir une enquête, ce que cette personne n'a pas fait. Donc, forcément, quand il a été auditionné, eh ben, il a dit qu'il n'avait pas, que Kyle ne lui avait jamais dit qu'il avait été violé.
Bah,
ce qui est faux, puisqu'en plus, il l'a répété au majeur de la Légion étrangère.
Oui, oui.
Donc, voilà. Donc, en fait, on est dans une. Quand on parlait de faisceau de concordance, en fait, on est dans une j'ai envie de dire, une concordance de personnes qui se complaisent.
Protéger leur petite personne.
Exactement. Et puis, de toute façon, bon, bah, il n'est plus là, donc ça ne sert à rien, quoi, en gros. Hein. Voilà. Donc, non, c'est...
Si c'était à leur fils ou à leur fille que ça arriverait.
Moi, j'ai vraiment cru que les choses allaient changer lorsqu'on a eu notre nouveau ministre de la Justice, et je le dis ouvertement, puisqu'en fait, il a été sollicité lors d'une assemblée, en fait, de commission des lois, c'était en juillet 2020, où on l'a sollicité pour lui dire: comment expliquez-vous que sur les 93 victimes de viol chaque année, il n'y ait que 1000 condamnations? C'était le député d'Ardèche qui l'a sollicité à ce moment-là. Et il a paru étonné de ces chiffres. Il a même demandé d'où il sortait, ce à quoi on lui a répondu qu'il sortait justement du ministère de la Justice. Et il a dit, bah, si c'est pas normal, et je vais vérifier, et si c'est le cas, les choses vont changer, croyez-moi. C'était il y a 2 ans, rien n'a changé. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que quand je vois des gens voilà, qui sont... un député, c'est quand même quelqu'un, pour moi, qui a du poids. Et même ces gens-là, ils n'arrivent pas à faire bouger les choses autant qu'il faudrait.
Si il est tout seul, ça aura du mal à bouger.
Voilà. C'est quand on est seul, et ben, c'est compliqué.
Non, mais il faudrait demain, comme on voit toutes ces affaires là, de paires de claques, des trucs dont on n'a rien à c'est foutre, hein, finalement. Oui. Là, tout le monde se bouge, hein. Tout le monde vient sur les plateaux de télé y aller de son petit commentaire, même si ça sort d'une députée complètement hystérique qui contrôle à moitié ce qu'elle raconte. Là, par contre, là, on va y aller. Mais Kyle, encore une fois, comme Océane...
C'est des sujets qui dérangent.
Mais oui, ce sont des enfants qui ont été violés. Enfin, c'est...
Ouais. C'est...
Vous voyez, on a tous grandi, je suppose, vous, comme moi, comme plein de gens qui nous écoutent ce soir, dans les règles. On a reçu une éducation. Et on a longtemps... Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez la cinquantaine, c'est ça ?
48. Bon. Ouais, 48.
Vous avez donc été élevé à un moment, il y a 30 ans, dans un monde où on croyait dans la loi, dans l'uniforme qu'on respectait, dans la loi qu'on savait nous protéger.
On peut même parler de la peur du gendarme.
S'il arrivait quelque chose il y a 30 ans, mais ça n'aurait jamais été comme ça.
Non.
Il y a 30 ans, Kyle aurait été violé, le mec se serait retrouvé au trou.
Oui, mais entre 2018 et 2019, il y a quand même eu 19% de plus de viols. Enfin, c'est des chiffres qui sont juste hallucinants, quoi.
Oui,
en plus de viols et de moins en moins de condamnations. Je me dis, il y a quand même un truc qui tourne pas rond.
Bah, il y a un truc qui tourne pas rond, c'est qu'on n'est plus protégé. Il y a un truc qui tourne pas rond, c'est que les voyous, les prédateurs, on la vit belle.
Ah ben ça, c'est certain.
C'est le triste constat qu'on peut faire. Hier soir, on parlait d'enfants qui ont été abusés. Bon, vous avez été nombreuses et nombreux à réagir sur cette histoire et on va faire certaines vérifications sur cette histoire parce qu'il nous semblait, au bout de ce témoignage, qu'il manquait un élément. Il nous manquait quelque chose dans cette histoire. Mais on a 40, 50 fois depuis 3 ans que je suis sur cette libre antenne, entendu des personnes abusées, violées, agressées, pour qui il y a eu des non-lieux, ou alors qui ont attendu 4, 5 ans avant qu'il y ait un jugement. Enfin, c'est...
Voilà.
Bah, voilà, vive la France.
C'est ça. Donc voilà, j'espère que voilà, s'il y a des personnes qui ont le pouvoir de faire quelque chose et de faire bouger les choses, tous un petit peu, c'est un peu l'histoire du petit colibri, hein, qui apporte un petit peu d'eau, et que tout le monde se moque de lui, mais qui finalement apporte sa contribution, bah, j'espère que ce soir ça nous aura permis d'apporter.
Mais vous savez, les gens qui peuvent faire bouger les choses, on les connaît, mais il faudrait qu'il leur arrive directement ou indirectement une affaire comme celle-là. Pour qu'ils prennent conscience de l'état de notre justice, du fonctionnement. Parce qu'on a des beaux textes en France. Hein. Si on les prend dans leur ensemble, on est protégé. Sur le papier, on est protégé.
Sur le papier. Voilà.
Mais après, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que ce n'est pas appliqué.
Exactement.
Parce que les juges n'ont pas les moyens de les appliquer. Ils n'en ont pas le temps même. Et toutes ces choses-là sont faites un peu, parfois, à la va-vite.
Ah, mais c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait un corps de métier en particulier qui soit pointé du doigt hein, ce soir. C'est vraiment un ensemble. C'est tout le maillage judiciaire qui, pour moi, est à revoir.
Oui, et encore une fois, ce ne sont pas les personnes qui sont incriminées, c'est le système. Parce que ce système est en train d'étouffer. On l'évoque souvent ici, les juges croulent sous les dossiers. Ils n'ont plus le temps de traiter les choses. Ils n'ont plus le temps de donner une appréciation profonde. Il faut qu'ils enchaînent. Donc, l'histoire que vous nous racontez ce soir, c'est dramatique pour votre fils. C'est horrible pour la façon dont vous avez été traité ensuite.
En fait, c'est ça. Et je me dis, nous, on n'était pas la victime directe. Je me dis, mais je ne me mets même pas à la place des victimes qui ont le courage d'aller porter plainte et qui sont reçues comme on l'a été.
Mais comme Océane a été reçue.
Voilà, exactement.
Comme Océane a été reçue, comme Océane.
C'est un peu ce qui a déclenché mon appel. Hein,
comme Océane a patienté, a cru en la justice, a cru qu'on allait au moins inquiéter ses prédateurs. Et au bout du compte, rien.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Il n'y a qu'un journaliste de France 3, Auxerre, qui est allé dans le bar à vin où le fameux patron l'avait abusé un soir, chez elle, en lui disant qu'il allait lui apprendre à faire des cocktails, qui a osé, avec sa caméra, y aller. Aujourd'hui, le contre-pouvoir, en fait, c'est nous.
C'est ça, exactement. Donc, voilà. C'est vraiment Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Daniel ?
Excuse-moi, Jean-Daniel, je t'ai appelé Jean-Pierre tout à l'heure.
C'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Aucun
souci. Ça lui va bien aussi.
Olivier, tu sais, en parler ce soir, c'est déjà une victoire. Franchement, en parlant avec des parents endeuillés, mais cette histoire, je l'ai déjà entendue 4 ou 5 fois. Et je pense que c'est en parlant qu'on va sensibiliser les décideurs, parce que s'ils sentent monter une contrariété pour nos gamins qui sont bousillés, même si la justice dit qu'à 18 ans et demi, on est majeur, je pense que ça va bouger. Ça va prendre du temps, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Déjà, en parler, c'est une victoire.
Non, je te remercie. Bien sûr. Mais merci à vous d'avoir le courage et surtout la sobriété que vous dégagez parce que vous êtes exemplaire. Je n'aurai pas ce calme. Vous l'avez sans doute remarqué.
On a fait du chemin depuis.
Oui. Je pense qu'en plus, je réagis sur l'instant, mais je pense qu'après, on est obligé de réfléchir.
Merci de nous avoir permis d'en tout cas
de nous exprimer. C'est certainement pas moi qui vais jeter la pierre. Hein. Tu sais, j'avais le cerveau à l'envers quand je l'ai appris, donc je sais très bien par où on passe. Le tout, c'est qu'il ne faut pas devenir nous-mêmes des prédateurs, parce que sinon, on ne fera rien évoluer.
Bien sûr.
En tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi. Et quelle victoire de parler de la transition.
Et ne pas se substituer à cette justice, même si elle marche pour l'instant, comme vous l'avez dit, pour l'instant, qui ne marche pas comme il le faut. Merci en tout cas.
Améliorons-la. Ouais. Merci Olivier.
Merci pour votre combat. Et puis n'hésitez pas, voilà, vous le savez, je le dis à tous, mais n'hésitez pas, on est là, vous savez où nous trouver. D'accord ? Vous êtes là ?
Excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est toi le chef. Hein.
Non, je vous disais, vous connaissez le chemin, donc n'hésitez pas, vous nous tenez au courant s'il y a des avancées.
Avec grand plaisir.
D'accord ?
Avec grand plaisir.
C'est très gentil à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Je vous en prie. Bonne nuit.
Super émission. Vas-y.
Merci. Au revoir.